vous rentrez dans une bijouterie ou dans une banque ou ailleurs quand vous braquez, hein, qu'importe, et vous n'êtes pas sûr d'en sortir vivant. Vous jouez avec ce que vous avez de plus cher. Parce que vous jouez, en fait, vous jouez avec votre vie. Bien évidemment, vous mettez tout de votre côté pour que ce soit le cas, mais rien n'est garanti dans la vie.
Les braqueurs. Mickey. Épisode 3.
Nous étions quatre au départ, hein, le Stopwatch Gang. Sur un an et demi, on a peut-être fait quatre braquages de banque aux États-Unis. Et arrive un moment où deux de mes complices se font arrêter à la suite d'un braquage. Johnny et moi arrivons à nous enfuir. On se retrouve à deux. On n'a pas continué de la même façon. On ne faisait plus les banques. On s'est focalisé sur les distributeurs automatiques. Vous avez des distributeurs où une cassette peut contenir plus de 200 000 euros. Donc voilà, nous, on les braquait. En 92, suite au deuxième braquage de cette manière, je suis interpellé 3 jours plus tard à la réception de l'argent. Le braquage avait été commis en Alaska. De l'Alaska, il est difficile d'y sortir. La route, il n'y en a qu'une seule. Un aéroport, il n'y en a qu'un seul. Et le port, c'est un port industriel, donc très facilement surveillé. Donc, on a envoyé l'argent par la poste. Alors, on met le butin dans un carton, très large d'ailleurs, un gros carton. Et l'idiot que j'ai été ne voulait pas se débarrasser d'une arme de secours que je gardais sur moi, que j'affectionnais particulièrement, un 357 Desert Eagle. C'est le problème de bon nombre de hors-la-loi, on va dire, hein, de braqueurs ou autres. Vous vous laissez aller au bout d'un moment. Vous vous laissez aller, vous vous endormez un peu sur vos lauriers. Vous ne suivez plus tout à la lettre. Donc, au lieu de me débarrasser de tout, comme j'aurais dû le faire, dans un autre carton, je place ce pistolet avec quelques vêtements, hein, en guise de pochette, hein, et j'envoie le tout à la même adresse dans une poste restante à Seattle. Et 3 jours plus tard, je vais récupérer ces cartons et je remarque que le petit colis a été rescotché. Et je réceptionne les colis et en sortant, le monde me tombe sur la tête. Le FBI est là, m'interpelle. Quand le facteur chargeait les colis dans son camion, le petit colis lui est tombé des mains et apparemment, le colis s'est entrouvert et il a aperçu la crosse de l'arme. Il avertit les inspecteurs postaux et il m'interpelle pour un truc tout con, pour le transport d'armes par voie postale. C'est illégal aux États-Unis, je ne savais pas. C'est une amende, hein, c'est rien de sérieux, du moment que l'arme est légale. L'arme était légale. Et là donc je me retrouve en prison pour un truc bidon, un truc qui va me permettre de sortir rapidement avec une caution. Mais le procureur se lève au moment où le juge est prêt à définir le montant de la caution. Votre honneur, en Alaska, il y a eu des faits commis il y a quelques jours derniers. On aimerait quand même savoir ce qu'il y a dans l'autre carton. Le lendemain, ils ouvrent le carton et découvrent plus de 660 000 dollars en espèces. Certains même encore avec les bandes de la provenance de la banque. Donc j'étais mal. J'ai à l'époque 27 ans. Les charges étaient lourdes. Vol à main armée en bande organisée, ça, même pour un primaire, hein, ça va toujours chercher assez haut. Je prends 9 ans. Sur ces 9 ans, je fais à peu près 7 ans. Ça fait mal. Il y a encore quelques jours, vous étiez on top of the world, hein, sur le sommet du monde. Et là, vous vous retrouvez enterré vivant, à la fleur de l'âge. C'est très difficile à gérer. Je me suis retrouvé dans une prison qui s'appelle Sheridan, de niveau 5. Le niveau maximal est 6. Plus de la moitié avait des peines à perpétuité. Et moi, avec ma petite peine, en fait, les quelques personnes que je côtoyais m'appelaient courant d'air, parce que je ne faisais que de passer pour eux. Pour moi, ces 7 années ont été 7 années de vie en suspens. Vous êtes comme un oiseau arrêté en vol. Je n'avais qu'une idée en tête, et ça m'a coûté de nombreuses années de prison, c'est de rattraper le temps perdu, remonter au sommet, et le plus rapidement possible, et de la seule façon qui m'était possible. À la fin de ma peine, je suis expulsé des États-Unis. J'arrive à Paris et ma mère m'accueille. Je parle le français avec l'accent américain comme ça. J'avais perdu tous mes repères. Rappelez-vous, j'étais parti aux États-Unis à l'âge de 18 ans. Et là, j'en reviens un homme de 34-35 ans. Je n'ai pas un sou en poche. Je me sens psychologiquement plus bas que terre. À 34 ans, vivre chez maman, c'est pas évident pour une personne si fière que moi. C'est une situation que je ne pouvais pas accepter. En apparence, je suis parfaitement calme, mais à l'intérieur, je suis un tigre qui vient de sortir d'une cage. Vous êtes libre, oui, physiquement, il n'y a plus de barreaux, plus de portes blindées devant vous. Mais la liberté, qu'est-ce que c'est vraiment? Et qu'est-ce qu'on en fait de cette liberté? Ma conception de la liberté à ce moment-là, ce n'était pas d'être libre physiquement, mais c'était d'être libre financièrement. Avant mon incarcération, j'ai vécu une vie très aisée. Je ne demandais jamais combien ça coûtait, je m'offrais tout et tout ce que je voulais. Les voyages, les vêtements, les automobiles, les motos, tout, les bijoux, tout. Je sors, je n'ai aucun projet vraiment de vie, si vous voulez recommencer tout à zéro. Qu'est-ce qui se présentait à moi? Oui, maintenant, je comprends. Je comprends et je réalise que quel gâchis. Avec mes possibilités, je parle plusieurs langues, etc. J'ai été entraîneur de fitness. J'aurais pu faire autre chose, oui. Mais sur le moment, vous ne voyez pas ça. Ces options n'existent pas. Ça me paraissait tellement loin, infranchissable. Donc, voilà, j'étais plus ou moins convaincu. J'allais, d'une manière ou d'une autre, recommencer à faire quelque chose de pas très honnête. Rapidement après ma sortie de prison, un ami de longue date de Serbie est entré en contact avec moi. Lui et d'autres avaient déjà fait quelques coups, avaient quelques coups à leur ceinture. Braquage de bijouterie. Il me parle de mon frère. Il me propose de m'associer à lui. Chose que je fais très rapidement. Passer de la banque à la bijouterie, pour moi, c'était simplement qu'un moyen de faire de l'argent rapidement. Ça me paraissait tout à fait faisable et tout à fait lucratif financièrement. Les banques en France ne sont pas aussi intéressantes, ou en Europe, je veux dire, ne sont pas aussi intéressantes que les banques américaines. Malgré le fait d'en avoir fait deux en Suisse, j'ai fait quand même deux banques. Une rapidement après mon retour des États-Unis. Et ça m'avait assez impressionné parce que je n'avais même pas pris la peine d'aller dans le coffre. J'avais fait le guichet, je me rappelle, le guichet de devises étrangères. Et je m'étais retrouvé avec 100 000 euros à peu près. Ça renfloue les poches. Et puis c'était la phase, ce qu'on appelle tout communément, le défauchage. Vous faites ça pour vous défaucher.
À suivre.
Et puis, on passe aux choses sérieuses.
Sur arteradio.com.